interview Amine Bouafa. Amine, bonjour.
Bonjour Benoît.
Et donc on vous connaît depuis Timbuktu hein, d'Abderrahmane Sissako et le César de la meilleure musique de film. Depuis, il y a eu différents films comme La Belle et la Meute. Et là, vous avez signé la musique d'un film d'animation, Le Sommet des Dieux, de Patrick Imbert. Tout d'abord, c'est votre premier film d'animation. Est-ce que ce genre, ou en tout cas cette technologie de cinéma, a une influence sur le travail musical? On entend souvent dire que c'est beaucoup plus long, le processus.
Le Sommet des Dieux, c'est vrai que c'est un film d'animation, mais c'est traité quelque part comme un film, parce que c'est un film d'animation pour adultes. Quand j'ai commencé à travailler sur le film, mon premier ressenti, c'était qu'il fallait le traiter vraiment comme si c'était un film de live action. C'est un cinéma beaucoup plus gourmand en termes musicaux, donc il y a plus de musique. La musique, elle est mise en avant. La musique, elle participe beaucoup à la narration, elle participe beaucoup aussi à mettre en exergue des émotions, parce que quand on est dans un cinéma filmé, on a des acteurs, donc l'émotion peut passer par des regards, par un jeu under the skin. Alors que là, c'est beaucoup plus difficile de dessiner des émotions des caractères, et donc la musique va souligner toute cette partie-là. Donc c'est gourmand, c'est exposé, et du coup c'est une chance pour un compositeur de travailler sur un film comme ça, parce que du coup ça offre une possibilité d'expression incroyable, et surtout comme on intervient généralement à la phase d'animatique. Donc la phase d'animatique, c'est le sketch, c'est le storyboard dessiné quelque part au crayon, et que c'est le début de la phase de production du film. Donc il y a beaucoup plus de temps, et on peut s'offrir le luxe de se tromper.
Et comment s'est faite la rencontre avec le réalisateur Patrick Imbert? Est-ce que c'est parce qu'il aimait vos précédentes musiques qu'il a fait appel à vous?
On s'est rencontrés grâce au producteur Folivari et leur partenaire musique 22D Musique. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et puis on a commencé à réfléchir à la matière sonore qu'on allait utiliser, donc aux couleurs, à la palette de couleurs sonores qu'on allait utiliser. On est un peu rentré dans une sorte de laboratoire d'expérience sonore. On voulait quelque part, enfin en tout cas, la volonté, c'était d'abord de créer des sons qui donnent à entendre des sensations physiques. Comment est-ce qu'un son puisse quelque part nous faire revivre une sensation de froid ou une sensation d'immersion dans un lieu gigantesque. Donc c'était vraiment une recherche sonore sur un rendu physique sensationnel. Et après, on a commencé à travailler sur des thèmes et toute la matière musicale, du coup, à proprement dit, du film.
Et donc la dimension sonore, alors évidemment, en film d'animation, il n'y a pas une réelle bande-son au départ, tout doit être recréé. Est-ce que pour cette dimension sonore, liée à cette géographie, hein, qui est la montagne, les hautes altitudes, est-ce que vous aviez des sons? Est-ce que vous avez un travail avec le bruiteur, l'ingénieur du son? Ou alors vous avez essayé de reconstituer cet environnement sonore à partir de vos instruments?
Alors, en fait, le travail sur le son est venu beaucoup plus tard, parce que en tout cas, le sound design a besoin d'avoir une image presque définitive pour commencer à travailler, alors que la musique, on peut commencer à travailler sur des montages un peu pas finis et faire évoluer l'image et la musique en parallèle. Donc le son est venu beaucoup plus tard. Depuis le début, quand on a commencé, enfin même durant tout le processus de composition, j'avais toujours cette idée de respecter, enfin de donner de l'espace pour le sound design. Il y avait une volonté de réalisme dans le cinéma de Patrick, et j'étais conscient que ce réalisme-là, la musique, bien sûr, peut l'apporter, mais surtout, la cohérence entre la musique et le sound design ou le mariage. Il fallait pas se marcher dessus, il fallait laisser de l'espace au sound design et en même temps essayer d'imaginer ou de se projeter dans ce qui pourrait être le sound design de la montagne, le vent, la pluie, les pas, les bruits d'avalanche. Et donc il fallait spectralement réfléchir aux fréquences ou aux tonalités qui étaient utilisées dans la composition de la musique.
Il y a donc ce réalisme, et il y a aussi, donc ça va avec ce réalisme, une dureté et même une violence liée à ces altitudes, à cet alpiniste. On vit avec lui ses épreuves. Pour cette dureté des épreuves, il y a eu vraiment une manière radicale de ne pas être trop léger. Il y a cette gravité dans votre partition, ça passe par cet environnement sonore, justement, ça passe par un environnement dissonant.
Oui, surtout peut-être dans la deuxième partie du film. Quand on commence l'ascension donc, vers l'Everest, il y a bien sûr une volonté de tension dramatique qui est accentuée par oui, des dissonances ou surtout des sons. Il y avait des sons un peu stridents, les orgues de glace, il y avait des sons un peu plus sourds avec des instruments acoustiques mais traités avec des machines pour qu'on puisse avoir cette texture. Comme c'est un film qui parle de dualité, on a l'homme et la nature, on a les deux protagonistes, donc le journaliste et l'alpiniste. Il y a une dualité chronologique aussi parce qu'il y a beaucoup de flashbacks. Il y a la ville et la montagne, Tokyo et l'Everest. Donc c'est un film qui était construit beaucoup sur cette notion de dualité. Et ben dans la musique, il y avait aussi une réflexion comment accompagner cette dualité à chaque fois. Donc en fait, déjà, le parti pris était de ne pas choisir d'écrire plusieurs thèmes. On a écrit un seul thème, mais il fallait le décliner à chaque fois. Il fallait le développer. Tout au long du film, le thème est toujours présent, que ce soit pour apporter une tension, ou que ce soit pour souligner une émotion, ou que ce soit pour donner un rythme ou insuffler un drive narratif aux images.
Dans ce travail de thème et ce travail narratif, il y a évidemment les exploits de l'alpiniste. Et donc, il y a une dimension dans votre musique triomphante, quelque part, l'héroïsme de l'alpiniste. Et ça passe par le grand orchestre aussi, qui est aussi convoqué. Quel a été ce travail voilà, d'orchestre et de côté un peu grandiose dans la musique?
Oui, c'est vrai qu'en fait, on a toujours voulu réserver l'orchestre à cette partie finale qui est l'ascension finale de l'Everest. Le réalisateur Patrick Imbert voulait que la musique soit sensationnelle, parce que c'est un défi incroyable que l'alpiniste réussit, surtout que c'est la face nord, enfin, pour les gens qui connaissent l'alpinisme, c'est la face nord de l'Everest. C'est vraiment un exploit, et donc la musique devait accompagner cet exploit, et donc on a réservé l'orchestre à cette partie-là, mais tout au long du film, donc ça arrive à 1h10 du film, je pense, mais tout au long du film, depuis le début, il fallait garder un côté un peu intime On a fait appel à des petits ensembles qu'on a enregistrés dans une acoustique d'église pour un peu essayer de recréer cette immensité acoustique qu'est la montagne. Mais aussi des instruments solistes, hein, cristal bâché, l'orgue de glace, des chants de moines tibétains, des instruments un peu tibétains aussi. Il y a aussi l'orchestre même au début, mais il intervient avec une écriture assez effacée pour donner beaucoup plus place à ces instruments, à ces ensembles intimistes.
Le film s'appelle Le Sommet des Dieux. Il y a donc le sommet. On a évoqué tout cet aspect des hautes altitudes et l'exploit qui va avec. Et il y a aussi des dieux. Et est-ce qu'on peut dire que dans votre musique, il y a une dimension sacrée, notamment, vous l'avez dit, les voix de moines?
Je pense qu'il y a une dimension sacrée de la nature, oui. Il y a un appel de la montagne. Dans la musique, j'ai essayé de le traduire, cet appel à la montagne. En utilisant oui, des chants de moines, des instruments qui rappellent les cérémonies sacrées au Tibet aussi, qui sont aussi un peu traités dans des machines, dans des acoustiques un peu différentes aussi, de réverb, d'écho.
Alors l'instrumentation est très riche, hein, en plus de l'orchestre, on a évoqué le cristal bâché, on a évoqué le glace harmonica, il y a aussi les ondes marteneaux, etc., etc. Est-ce que quand vous travaillez, quand vous trouvez l'inspiration de la musique, est-ce que ça se fait progressivement, le choix des instruments, ou alors dès que vous avez l'inspiration de la musique, vous visualisez aussitôt l'instrumentation?
Dans ce film, c'était dans l'autre sens. C'était quelles sont les couleurs? C'est comme si un peintre se disait, au lieu de réfléchir à qu'est-ce qu'il va peindre comme objet, qu'est-ce que je vais utiliser d'abord comme couleur? Donc c'était d'abord préparer la palette de couleurs et après réfléchir à l'objet qu'on allait peindre, donc après réfléchir à la musique. Et certes, la palette de couleurs a été bien sûr enrichie petit à petit en avançant, mais 70% ou 80% des éléments sonores de la partition ont d'abord été choisis avant de composer la musique.
Donc le choix instrumental précède l'écriture du thème.
Tout à fait, tout à fait. Le choix des instruments, des sons.
Et donc l'interprétation, les instrumentistes sont très importants. Est-ce que c'est vous-même qui faites vos recherches sur les instruments? Ou alors vous faites venir les instrumentistes qui font la recherche avec vous? Comment ça se passe?
Les deux. Je fais appel à un musicien et j'essaye de faire des sessions de travail, de faire des essais, de savoir est-ce que telle technique ou essayer autre chose. Quand on est compositeur, c'est un travail très solitaire. Et des fois, on a besoin de comprendre, d'explorer. Sur ce film, en tout cas, c'est beaucoup d'expérimentation sonore. C'était important de travailler en proximité avec des vrais musiciens. Il fallait avoir accès, bien sûr, à un travail expérimental de recherche avec des musiciens.
Et votre musique, et c'est sa réussite, nous fait complètement oublier qu'on est face à du dessin. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à la réalité d'images de montagne. Et j'ai l'impression, c'est votre premier film d'animation, mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vraiment fait comme un film d'animation. Et j'imagine même qu'il n'y a pas l'imaginaire du film d'animation qui est convoqué. On n'est pas dans l'imaginaire de Miyazaki, pour en citer un des plus grands. Est-ce que malgré tout, de la part du réalisateur, qui avait déjà signé un film d'animation auparavant, est-ce que lui, de son côté, il avait quand même des références liées à l'animation?
Pas du tout. Il y avait des références de Pink Floyd, il y avait des références de Alan Parsons Project, il y avait des références de de Steve Reich. Pas vraiment des références qu'on peut avoir dans un cinéma d'animation. Comme il y avait une volonté de réalisme, Patrick Imbert, depuis le début, m'a fait clairement comprendre qu'il ne fallait pas, sauf dans certains endroits du film, il fallait pas aller dans une écriture, ce qu'il appelait civilisé de la musique. Ça veut dire qu'il fallait pas utiliser un orchestre symphonique, sauf par exemple dans l'Ascension, dans la fin. Mais quand l'homme était en face de la nature, était en face de cette immensité, Patrick me parlait plus de sonorités un peu plus lunaires. Il voulait qu'on puisse sentir comme si on était dans une autre planète, en fait, quelque part. Pas mal de synthétiseurs des années 80, mais traités différemment. C'était aussi des samples que j'avais enregistrés. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé des samples de violon, mais qui étaient retravaillés, re-rentrés dans des synthétiseurs, que j'ai rejoué après comme un synthétiseur, qui avait vraiment beaucoup d'expérimentation sonore dans le film.
Et aujourd'hui, la musique de film exige d'un compositeur d'être touche-à-tout et d'être capable, même chez lui, de tout faire, de A à Z. On n'est plus justement au thème fait au piano, et puis ensuite, et ça enrichit les films finalement.
Tout à fait. Moi, je pense qu'un compositeur de musique de film, aujourd'hui, en tout cas, on doit donner à entendre au réalisateur quasi un résultat presque finale de ce que la musique pourrait être. Et je comprends, parce que les outils de cinéma aussi se développent très très rapidement. Le compositeur de musique à l'image doit être capable de délivrer une démo, en tout cas une maquette de son travail qui est la plus proche du résultat final. Surtout dans ces musiques qui sont plus produites, plus axées sur le son.
On ne l'a pas encore évoqué, mais le film est une adaptation d'un manga japonais. Que reste-t-il d'asiatique finalement dans votre musique?
Alors depuis le début, le réalisateur Patrick Imbert était tout à fait contre d'utiliser des instruments japonais. Il voulait pas ce côté carte postale, ce côté quelque part folklorique de l'utilisation d'instruments traditionnels. Moi qui aime beaucoup la musique du monde et qui aime, enfin, je me suis dit que c'était une évidence que si je fais un film qui vient de cette culture-là, et puis surtout on est au Népal pendant la moitié du film, je voulais utiliser et faire des sons qui viennent du Népal ou du Japon. Et donc, sans les utiliser de manière folklorique, eh ben, j'ai utilisé les cuivres qu'on utilise dans les cérémonies sacrées au Tibet, les chants des moines, mais à chaque fois, c'est traité avec des effets où c'est mis par exemple dans des amplis de guitare ou pour qu'on puisse leur donner un côté un peu plus moderne, hein, et à la toute fin du processus de composition, je me rappelle, c'était à une dizaine de jours de la livraison de la musique finie, on a décidé aussi d'intégrer une berceuse chantée en japonais à la toute fin de la collaboration. Donc oui, il y a quelque chose de japonais, il y a quelque chose qui vient du Tibet aussi.
Thank you.
Etsuko Shida, c'est l'interprète de la berceuse, c'est elle qui a écrit les paroles, qui est une joueuse de koto, un instrument traditionnel japonais.
Vous êtes aujourd'hui, Amine Bouafa, en musique de film, une sorte d'alpiniste en pleine ascension dans votre carrière. Et ce n'est pas le sommet des dieux, j'imagine, le sommet de votre carrière, puisque vous, voilà, encore plein de projets vont venir. Mais quel regard, une évolution voilà, dans le choix des films, ou peut-être même dans le dispositif de travail.
Comme pour un acteur, comme pour toute personne qui réfléchit, enfin, qui a envie de faire une carrière dans le cinéma, c'est le choix des projets est très important parce que c'est et pour moi le choix des projets passe d'abord par le choix, enfin ou par une rencontre, par la rencontre avec un metteur en scène. C'est la chose la plus importante parce que c'est comme quelque part c'est d'abord une rencontre humaine, c'est une envie de cinéma, c'est une envie de défendre une esthétique et donc le metteur en scène et la clé du choix d'une collaboration avant même le projet.
Et en cette nouvelle année 2022, alors qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois ?
Je suis en train de finaliser le travail sur une série qui s'appelle Le Monde de Demain, réalisée par Katel Kieveré et Elie Cisterne, qui parle de la préhistoire du groupe 1TM, du début du groupe 1TM de rap. Et de toute cette effervescence culturelle des années 80 avec les taggers, avec Radio Nova et le début de la radio. Il y aura aussi un film qui s'appelle Le Marchand du Sable, réalisé par Steve Acepo avec Benoît Magimel et Ophélie Beau, Aïssa Maga. Très beau film sur les marchands de sommeil, mais aussi un premier film de Sophia Alaoui qui a réalisé Qu'importe si les bêtes meurent, qui a eu le César du meilleur court-métrage cette année, et qui est un film sur les extraterrestres, où c'est sur une présence extraterrestre sur les montagnes de l'Atlas au Maroc. Et puis il y aura aussi le film de Rachid Bouchareb qui s'appelle Nos frangins avec Mathias Schoenaert et Lina Coudry.
Eh bien, plein d'occasions de retrouver vos musiques. Merci, Amine Bouafa, et donc le Sommet des Dieux, nommé aux Lumières 2022 et au César. Merci.
Merci.